C'était un discours très bizarre.
C'était un discours très bizarre. J'ai l'impression que Poutine a été pris de court et qu'il a voulu le prononcer très vite pour marquer le coup. Mais en le prononçant très vite, à mon avis, il a mal préparé ce discours. Parce que bien évidemment, il a voulu faire peur à l'Occident. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a obtenu l'effet inverse après ce discours. Parce que Poutine était bizarre. Depuis trois ans, je dis à chaque fois, lorsque Poutine menace, fait les menaces nucléaires au monde, ce n'est pas une preuve de force de Poutine, mais une preuve de faiblesse de Poutine. Parce que si la Russie est un grand pays militaire, si l'Ukraine est un tout petit pays, et si la Russie est tellement fort nucléaire du point de vue militaire, pourquoi il a besoin de menacer par la chose nucléaire? Et donc, en fait, c'est un aveu de faiblesse de la part de Poutine. Pourquoi je dis que c'est un discours bizarre? Nous avons vu Poutine qui a prononcé un discours de presque 8 minutes, et les spectateurs et les experts qui sont très attentifs, ils ont remarqué que Poutine n'a pas bougé une seule fois ses mains, comme si ses mains étaient collées à la table, comme si on lui a collé les mains pour pas qu'il tremble avec ses mains. Ils n'ont pas bougé pendant 8 minutes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé, il y a Anton Gerashchenko sur son compte X, qui s'est amusé à faire cette vidéo en 1 minute et demie, très très rapidement, et on voit que ses mains ne bougent pas comme si c'était un deepfake, comme si c'était quelque chose qui n'est pas un véritable Poutine, comme si on a fabriqué un Poutine pour prononcer ce discours. Si vous écoutez très attentivement la langue russe de ce Poutine qui prononce ce discours, on a aussi quelques doutes. Parce qu'il commet des fautes en russe. Il commet des fautes de prononciation que Poutine normal ne commet pas. Et puis, pour le contenu de ce discours, je crois qu'il a commis une faute grave, la faute la plus grave pendant ce discours. Il a mentionné le retrait des États-Unis en 2019, lors de la première cadence du président Trump, du traité sur les missiles de moyenne et plus faible portée. À cette époque-là, Trump a dit, la Russie est en train de violer ce traité, et les États-Unis, pour ne pas perdre en quelque sorte de cette violation russe, se retirent de ce traité. Ça s'est passé en 2019, c'est-à-dire il y a 5 ans. Et Poutine mentionne dans la réponse aujourd'hui, dans la réponse de l'emploi d'un missile de moyenne et plus faible portée, de ce retrait américain sous le président Trump. Et en fait, c'est le président Trump qui va, enfin, le futur président, le 20 janvier, c'est Trump qui va prendre la place, si tout va bien. Et donc, en fait, Poutine se brouille en quelque sorte avec lui. Et ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, les Russes disaient, on attend que l'arrivée de président Trump, du futur président, qui va mettre la fin à la guerre, qui va couper les vivres à l'Ukraine, qui va plus donner les armes. Et donc, a priori, à Moscou, quand Trump a obtenu les scores assez, assez importants pendant l'élection du 5 novembre, ils étaient apparemment très contents. Et là, Poutine, dans son discours, attaque le président Trump. Je ne comprends plus rien. Parce que s'il attaquait le président Biden, j'aurais compris. Mais s'il attaque le futur président Trump, ça veut dire qu'en fait, il se brouille déjà avec le président qui n'est pas encore rentré dans ses fonctions. Et donc, tout est comme ça. Et par exemple, il a dit, en réponse à l'emploi des armes américaines et occidentales, anglaises et pour les Storm Shadow, dans la zone de l'opération spéciale. Ils ont frappé la région de Briansk et la région de Koursk. Je vous rappelle que la zone d'opération spéciale, selon la classification russe, n'est pas ni à Briansk ni à Koursk. Elle est à l'est de l'Ukraine et uniquement à l'est de l'Ukraine, dans les 4 régions, Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Et donc, en fait, ce Poutine-là confond 2 régions russes avec leur propre classification pour la soi-disant l'opération spéciale. Parce qu'il disait que dans la région de Briansk et Koursk, il n'y a pas d'opération spéciale. Il y a quelques terroristes ukrainiens qui sont rentrés là-bas et ils ont là-bas une opération antiterroriste. Mais ce n'est pas une opération spéciale militaire comme à l'est de l'Ukraine. Et donc, vous voyez, ce discours, apparemment, a été écrit par les personnes qui l'ont écrit très très vite et très très mal.
Les revendications stratégiques avancées par Moscou, est-ce que pour vous, elles traduisent une posture défensive ou offensive face à l'Occident?
C'est défensif, ça veut dire qu'en fait, comme je vous ai dit, Poutine se sent faible et donc il se met dans la position défensive. Donc en fait, il réagit, il ne savait pas comment répondre et donc en fait, l'Occident l'a mis dans la situation où lui est obligé de répondre. Parce que jusqu'à maintenant, c'était l'inverse. C'est lui qui a créé l'agenda et l'Occident répondait. Et là, il s'est passé l'inverse, quelque chose de différent. Et on voit que Poutine a été pris de court. Et donc, il menace l'Occident de frapper l'Occident, mais en même temps, il frappe pas l'Occident, il frappe l'Ukraine. Et si vous et moi on était cyniques, on pourrait dire, mais bon, quand il menace l'Occident, il frappe l'Ukraine. En fait, l'Occident s'en fiche, c'est pas son territoire qui est frappé, c'est l'Occident de l'Ukraine, c'est l'Occident du pays étranger. Et donc, ça n'a pas sens non plus. Et donc, Poutine est sur la défensive.
Comment l'Occident devrait-elle répondre à ce double défi de l'opposition de Poutine et du rejet par certains États des mandats de la CPI?
L'Occident devrait continuer à soutenir l'Ukraine et à lui donner, bien évidemment, tous les moyens pour frapper partout où l'Ukraine doit frapper la Russie. Je vous rappelle que selon les moyens de la guerre, le pays qui est agressé peut frapper les cibles militaires partout où il se trouve, y compris sur le territoire du pays l'agresseur. Et en fait, cette interdiction des pays occidentaux qui fournissaient les armes à l'Ukraine de frapper le territoire russe était tout simplement absurde. Ce n'est écrit nulle part. En fait, c'est l'Occident qui lui-même se liait les mains en disant pour X raisons, parce que la Russie, soi-disant, est un pays nucléaire, on ne peut pas frapper sur son sol. En fait, c'est complètement absurde d'un autre point de vue. La Russie, depuis le 30 septembre, a proclamé les quatre territoires ukrainiens occupés à l'est de l'Ukraine, ses propres territoires. Elle les a inscrits dans la constitution russe. Ce qui fait que depuis 2 ans, l'Ukraine, en réalité, selon la constitution russe, frappe le territoire russe. Et donc, en fait, ça devient complètement schizophrénique. En fait, les Russes ne savent plus ce qu'ils écrivent et ce qu'ils comprennent. En fait, ils ont écrit que ces territoires appartiennent à la Russie, mais lorsque l'Ukraine à l'est mène la bataille, les Russes ne considèrent finalement pas ces terres comme les terres russes. Et c'est uniquement quand les Ukrainiens frappent à Berdiansk ou à Bryansk ou à Koursk, les vrais territoires russes, c'est là où ils disent que ce sont les territoires russes. Donc en fait, on voit que la Russie ne sait plus comment réagir et de toute façon, vous savez, ils ont donné le plus, Poutine a formulé le but Kiev en 3 jours en 2022. Là, ça fait plus de 1 000 jours que la Russie n'a pas vaincu l'Ukraine et la Russie est en train de s'écrouler. Son économie marche de moins en moins bien. Son côté militaire se dégrade. Et en fait, si l'Occident continuait à vraiment soutenir l'Ukraine, l'Ukraine peut gagner cette guerre. Il n'y a aucun problème par rapport à ça.
Et pourtant, la Russie gagne du terrain dans certains endroits et continue à grignoter le territoire russe. Et Vladimir Poutine, il a dit dans son discours que la guerre en Ukraine a pris un caractère mondial.
Par rapport au fait que la Russie gagne du terrain, vous avez dit grignoter. Ça veut dire que la Russie ne gagne pas le terrain, elle grignote le terrain. Mais quel prix la Russie paye pour ce grignotage? La Russie perd actuellement un régiment par jour. Un régiment par jour. Est-ce que gagner 1 km de territoire et perdre un régiment par jour mérite ce prix? La Russie a fait venir 10 000 personnes, 10 000 soldats de la Corée du Nord. S'il a fait venir 10 000 soldats de la Corée du Nord, c'est qu'il lui manque des soldats russe. La Russie utilise actuellement la moitié de ses obus d'artillerie. Ce sont les obus d'artillerie de la Corée du Nord. et non pas de la Russie. Ça veut dire que la Russie ne sait pas produire ses obus. La Russie utilise les shahed iraniens, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas produire ces trucs-là. Et donc dire que la Russie gagne du terrain, c'est vrai techniquement, mais en réalité, les Ukrainiens ont changé tout simplement de stratégie. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils disaient « on va absolument ne rien céder, quitte à perdre beaucoup de vies ». Et là, ils ont dit « non, on va plus céder les vies, on peut céder du territoire, mais on fait payer aux Russes le prix très fort ». Pour le côté global et même mondial de la guerre, c'est Poutine qui l'a fait, qui a globalisé cette guerre, parce que c'est Poutine qui a signé en violation de l'accord des sanctions des Nations Unies, parce que la Corée du Nord, c'est un pays qui se trouve sous les sanctions des Nations Unies depuis des années et des années. La Russie fournit le pétrole deux fois plus que les sanctions onusiennes lui permettent. Poutine a signé un accord avec un autre pays nucléaire, avec l'autorisation de la Chine, un troisième pays nucléaire, pour amener les soldats nord-coréens en Europe. C'est lui qui a globalisé ce conflit, et donc l'Occident doit répondre d'une manière très ferme par rapport à ça.